Vous êtes sur RTL.
Et on vous retrouve, Christophe Paco, pour RTL Soir. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Céline, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour RTL Soir et ce jusqu'à 20h. Avec à la une ce vendredi soir, le tout dernier rebondissement dans l'enquête sur la disparition puis la réapparition de cette jeune joggeuse de 17 ans entre Mayenne et Sartre. Lisa a reconnu cet après-midi ne pas avoir été enlevée devant les gendarmes. Tous les détails dans un instant. Et sans plus tarder, les autres grands titres de l'actualité. C'est avec vous Marion Calais, bonsoir.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. L'Europe, face à la reprise de l'épidémie de Covid, l'Autriche n'exclut pas désormais de confiner les non-vaccinés. Dans ce journal aussi, la COP26, c'est la France qui s'engage à ne plus financer les projets d'énergie fossile à l'étranger.
Réaction à venir d'Aurore Mathieu, la responsable des politiques internationales de Réseau Action Climat, cette ONG climatique, est rendue place avec nous de Glasgow.
Le PSG toujours secoué après l'agression d'une de ses joueuses, le club demande le report de son match dimanche contre Lyon. Les courses dans le Quintet Plus à Vincennes, il fallait jouer le 13, le 12, le 10, le 6, le 11, le 5 et le 3. C'est plutôt les prévisions d'ailleurs de Dominique Cordier pour le Quintet tout à l'heure à Vincennes à 20h15.
À 18h15, la brigade RTL menée ce soir par Morad Jabari et EDF qui a pris la décision d'arrêter les coupures pour impayés désormais sur tous les mois de l'année et non plus uniquement pendant la fameuse trêve hivernale comprise, vous le savez, entre le 1er novembre et le 31 mars. 18h35, laissez-vous tenter les derniers bons plans de sortie de ce long week-end de novembre avec Julien Molcou. 18h40, on refera nos régions, l'actualité tout près de chez vous, Marion. Une tour de fer assez incroyable, hein, du côté d'un grand vignoble, d'un grand cru, un cru classé. Ça fait débat. Puis une info pour briller en soirée, comme toujours, elle concerne ce soir nos périphériques urbains. Enfin, une spécialité, je sais que ça vous plaît énormément, à vous toutes et à tous, spécialité gastronomique qui tient l'estomac visiblement. On va se rendre ce soir avant 19h en Alsace pour la découvrir. Et après votre journal de 19h avec Stéphane Genest, comme chaque vendredi, on va refaire la France autour d'Amandine Bégaud. Nos grandes signatures étrangères ce soir vont pouvoir donner leur avis sur des grands thèmes que vous avez choisis et retenus, Amandine.
Et on va parler jours fériés, contrôle des chômeurs et puis encore gastronomie. Est-ce que vous savez quel est le meilleur fromage du monde?
Ah oui, je sais, c'est un Italien.
Non, c'est pas un Italien.
Alors, c'est
et c'est pas un Français non plus. Bah, vous aurez la réponse à 19h15.
C'est chez Dave, c'est les dames?
Non plus.
Non plus.
Non, non.
D'accord.
Essaie encore.
Bon, tu peux rejouer à 19h15. Merci mille fois Amandine. On n'oublie pas les points réguliers sur votre météo comme tous les soirs. Météo à venir, bonsoir Valérie Quintin.
Bonsoir.
La tendance qui va bien.
Ça change, ça y est. On va avoir un petit peu moins froid mais beaucoup plus de nuages. Dès demain matin, un ciel très chargé sur les deux tiers nord du territoire. Quelques averses ici ou là qui devraient se limiter aux régions allant du Grand Est jusqu'au Massif Central dans l'après-midi.
Tous les détails à venir d'ici la fin de ce journal. Bonne soirée, plus que jamais, vous êtes bien sur RTL.
RTL Soir.
Le journal Christophe Paco, Marion Calais.
Elle a donc menti. La jeune Lisa, qui avait brièvement disparu en début de semaine, l'a reconnue aujourd'hui. Elle n'a été ni enlevée, ni violentée.
Bonsoir Guillaume Chiez.
Bonsoir.
L'adolescente est passée aux aveux aujourd'hui au cours d'une nouvelle audition à la gendarmerie de Château-Gontier.
Oui, une audition beaucoup plus longue que celle qui avait eu lieu mercredi au lendemain de sa réapparition. 6 heures passées face aux enquêteurs et accompagnée d'une victimologue spécialisée dans le recueil de ce type de paroles. Depuis son retour, les gendarmes avaient des doutes. La nature de ses blessures ne collait pas avec son récit. Impossible de retrouver trace d'une camionnette verte. Mais tout cela pouvait aussi être dû au choc. Les enquêteurs ont donc voulu en avoir le cœur net. Face à eux, l'adolescente avouait avoir menti, être désolée d'avoir causé une mobilisation aussi importante. Rappelons que mardi, au plus fort des recherches, près de 200 gendarmes ont sillonné la zone. Dans son communiqué, la procureure de Laval explique que pour l'heure, les raisons de son mensonge sont inexpliquées. Un proche de l'enquête nous décrit une lycéenne fragile psychologiquement. Désormais, c'est une autre procédure qui s'ouvre contre elle. Cette fois, une enquête pour dénonciation d'infractions mensongères. Un délit qui, selon les textes, peut être puni d'une peine maximale de 6 mois de prison ferme et 7 500 € d'amende.
Les précisions de Guillaume Chiez du service police-justice d'RTL. L'enquête change donc de direction avec la personnalité de la jeune fille au cœur désormais des investigations et il faudra être très prudent la concernant, comme le souligne la psychologue spécialiste des traumatismes Hélène Romano.
ça peut être un symptôme d'enfants qui, d'adolescents qui n'ont pas été protégés, pas été entendus. Donc ça nécessiterait qu'elle puisse être prise en charge pour comprendre derrière la mise en scène qu'elle a pu faire, qu'est-ce qu'il y avait en dessous, parce que probablement qu'elle est en très grande souffrance psychique et possiblement encore en situation de danger. Il y a un risque majeur d'effondrement, entre autres de passage à l'acte suicidaire qui ne peut pas être négligé. Il y a un risque de rejet familial, de rejet des amis. Autrement dit, elle était victime, elle va devenir tout d'un coup totalement diabolisée. Il y a des conséquences extrêmement multiples au niveau individuel, au niveau fraternel, si elle a une fratrie, au niveau familial.
L'analyse de la psychologue Hélène Romano après les aveux de Lisa, donc en Mayenne. Un militaire de l'état-major particulier de l'Élysée accusé de viol, il a été placé sous le statut de témoin assisté. C'est une autre militaire qui a dénoncé les faits après un pot de départ en juillet dernier. Gare au relâchement, la mise en garde du ministre de la Santé alors que l'épidémie de Covid flambe à nouveau à travers toute l'Europe.
Et Olivier Véran qui a rappelé aujourd'hui l'importance des gestes barrières, notamment le nettoyage des mains.
Nous conservons les gestes barrières, nous conservons l'usage du gel hydroalcoolique. Je vois que dans certains endroits, il a tendance à disparaître un peu, là où il y en avait partout. Je rappelle que nous produisons du gel hydroalcoolique en quantité gargantuesque et donc nous n'en manquons pas. Donc c'est l'attention du quotidien qui peut faire basculer les choses et qui peut nous permettre, s'il devait y avoir effectivement une cinquième vague, de faire en sorte qu'elle soit la moins haute possible. Et surtout, c'est la vaccination qui amoindrira l'impact sanitaire, comme nous l'avons fait au cours de la quatrième vague.
Olivier Véran, le ministre de la Santé au micro RTL de Serge Puyot. Aujourd'hui, on compte en France, Marion, près de 7000 personnes hospitalisées pour Covid.
Ce vendredi, l'agence européenne chargée des maladies a pointé la situation inquiétante, voire très inquiétante, dans 20 pays de l'Union et plusieurs pays planchent déjà sur de nouvelles restrictions. C'est le cas de l'Autriche, Léo Brauer-Potier, où un confinement est à l'étude pour les non-vaccinés.
Alexander Schallenberg le dit sans détour. Nous devons serrer la vis un peu plus fort. Selon des propos rapportés dans les médias, le chancelier autrichien justifie ce confinement des non-vaccinés comme un moyen de laisser justement une chance aux personnes vaccinées de mener une vie normale. Si le Parlement donne son feu vert dimanche, les personnes non vaccinées ou non guéries de la Covid feront l'objet de contraintes supplémentaires. Lundi déjà, les Autrichiens découvraient la règle des 2G qui exclut l'accès des restaurants ou des salons de coiffure aux personnes testées négatives. Le temps presse car l'incidence du virus est en augmentation en Autriche. 575 cas pour 100 000 habitants la semaine passée. Seuls 64% de la population éligible est complètement vaccinée. La pression mise sur les non vaccinés semble marcher car les centres d'immunisation connaissent une forte affluence depuis la fin de la semaine dernière.
Les explications de Léo Brauer-Potier, correspondant de RTL en Allemagne, aux Pays-Bas. Des annonces sont attendues ce soir avec possible fermeture des bars, restaurants et magasins non essentiels le soir dès 19h. La Norvège, elle, autorise les communes à recourir au pass sanitaire.
RTL soir 18h07, un ralliement in extremis à quelques heures de la fin de la COP26. La France s'engage à son tour à ne plus financer de projets liés aux énergies fossiles à l'étranger.
Oui, Paris rejoint ainsi une coalition d'une vingtaine de pays, dont les États-Unis ou l'Allemagne. Marie Billon, vous suivez cette COP26 pour RTL à Glasgow et cet engagement de la France débutera dès l'an prochain.
Oui, plus précisément, l'Hexagone n'investira plus à l'international dans des projets liés au charbon à partir donc de 2022. Et puis ce sera le pétrole en 2025 et le gaz en 2035. C'est la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, qui a fait cette annonce ce matin au dernier jour du sommet.
C'est un tournant, c'est une preuve de l'utilité des COP. Les COP permettent en fait d'accélérer ces changements. Les COP permettent d'engager ces tournants.
La France avait été très critiquée pour ne pas prendre part à cette coalition quand elle avait été révélée il y a quelques jours, mais Barbara Pompili assure ne pas avoir cédé aux pressions des autres pays signataires. La seule pression, dit la ministre, c'est celle du changement climatique. C'est parce que la France a voulu prendre le temps d'expertiser ce texte qu'elle ne l'a, dit-elle, signé qu'aujourd'hui.
Marie Billon à Glasgow pour RTL.
Marie va rester avec nous. En tout cas, Marie Billon à Glasgow, puisque nous la retrouverons pour les coulisses tout à l'heure dans les dessous de l'actualité, juste avant 18h30. Et auparavant, nous recevrons Aurore Mathieu du réseau Climat. Elle va nous parler des plus et des moins de ces dernières discussions, également dernière tractation à l'occasion de cette COP26 à Glasgow.
Le ton monte à nouveau entre la France et le Royaume-Uni au sujet des migrants, alors que Londres a qualifié aujourd'hui d'inacceptable le nombre de migrants illégaux partis hier de France, un millier selon les autorités britanniques.
Allez, RTL Soir continue, votre journal qui se poursuit avec Marion Calais avec l'onde de choc de l'agression d'une joueuse du PSG. On voit tout cela d'ici une petite minute maintenant sur RTL.
RTL Soir.
RTL Soir
avec Christophe Paco.
18h11, la suite de votre journal avec un démenti formel ce soir, Marion.
Oui, celui d'Aminata Diallo, la joueuse du PSG libérée sans charge hier après avoir été entendue dans l'enquête sur l'agression d'une de ses coéquipières. Son avocat fait savoir qu'elle conteste formellement les accusations.
Et après la tempête provoquée par cette affaire, le PSG, le Paris Saint-Germain demande aujourd'hui tout simplement le report de son match au sommet, match de championnat face à Lyon. Jean-Michel Rascol.
Oui, le PSG ne veut pas aller à Lyon dimanche. L'agression dont a été victime Kera Amraoui, la longue garde à vue de sa coéquipière Aminata Diallo, ont traumatisé l'équipe parisienne qui n'a pas la tête au foot. Les deux joueuses n'étaient pas à l'entraînement à Bougival. Un dispositif de sécurité encadrait d'ailleurs ce matin l'effectif du Paris Saint-Germain. Information confirmée par la ministre déléguée au sport, Roxana Maracineanu.
Je voulais donner tout mon soutien déjà aujourd'hui à Keira qui a subi cette agression, ainsi qu'à ses amis qui étaient avec elle ce soir-là et à toutes les filles du PSG. Maintenant, on a mis en place une protection pour ces jeunes filles qui avaient reçu aussi des menaces avant cette agression. Et on espère que cette enquête arrivera à désigner les coupables.
Les quatre acteurs de ce match doivent maintenant échanger dans la soirée, la fédération, les deux clubs concernés bien sûr, mais aussi Canal+, qui a programmé la rencontre dimanche à 21h. L'avocat d'Aminata Diallo déplore ce soir la mise en scène artificielle d'une rivalité qui ne correspond en rien à la véritable nature des relations entre les deux joueuses.
Merci à vous Jean-Michel Rascol, service des sports d'RTL.
Du ballon rond aux deux roues, c'est un secteur auquel on s'intéresse depuis ce matin sur RTL. Avec la crise, le vélo n'a jamais été autant utilisé, un bond d'un tiers l'an dernier selon l'Institut National du Cycle et du Motocycle, mais face à la demande, les vendeurs et réparateurs peinent à tenir le rythme, faute de main d'œuvre, comme l'a constaté Léonard Cassette chez Cyclable à Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine.
Des dizaines de vélos sont alignés dès l'entrée du magasin. Pour les vendre et les réparer, seulement 4 personnes. Eric cherche désespérément de nouveaux employés et multiplie les canaux de recrutement.
Bouche à oreille, mais ça c'est plutôt compliqué parce que les personnes qui sont en poste, généralement sont bien là où elles sont. Pôle emploi, on a beaucoup de mal à avoir des profils qui correspondent à la demande. Quand on cherche un vendeur, on a des gens qui viennent de tout horizon, notamment des vendeurs de chemises ou des choses comme ça. Or, le produit, c'est un produit technique.
Le bon profil, le passionné, le reconverti plein d'expérience, comme Michael qui termine de monter un vélo à l'arrière de l'atelier.
Là, c'est un vélo neuf qu'on a vendu la semaine dernière pour faire le gravage. Donc, on vérifie tout le vélo de A à Z.
Pour satisfaire la demande, Eric ouvre un deuxième magasin dans 3 mois. Là encore, pas de candidat.
Je cherche un vendeur et je cherche un mécanicien confirmé. Ça pêche les annonces que j'avais qui traînent sur les réseaux et sur les écoles depuis 2 ans, elles n'ont pas donné grand-chose.
Un problème, car 10 000 réparateurs seront nécessaires d'ici 2 ans pour entretenir l'ensemble du parc français.
Un reportage signé Léonard Cassette pour RTL.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Bonne nouvelle pour la commune de Saint-Priest près de Lyon qui devrait pouvoir financer de jolis projets grâce à un tableau qui dormait depuis 30 ans dans ses réserves d'art, l'œuvre d'une figure allemande de la peinture abstraite achetée 100 000 francs en 1987. Et bien figurez-vous qu'aujourd'hui elle pourrait rapporter plusieurs millions d'euros. Bien. La commune se prononcera la semaine prochaine sur sa mise aux enchères.
Merci à vous. Vous restez avec nous Marion Calais. On va parler de la météo maintenant sans plus tarder avec vous Valérie Quintin. Et le retour finalement d'une petite douceur, ça fera pas de mal.
Oui, et puis on va perdre le soleil dans la foulée, voilà, c'est comme ça, c'est gagné. On va avoir un ciel nuageux pratiquement partout demain matin, mais plus de gelée au réveil, des températures comprises entre 1 et 12 degrés de Dijon à La Rochelle, il fera 9 degrés à Paris, à Laval, à Carcassonne, un ciel très chargé pratiquement partout, excepté des Alpes à la Méditerranée, précisément entre les Alpes et la Méditerranée, le soleil va se maintenir toute la journée. Pour les autres, des nuages, quelques averses ici ou là, surtout entre le Massif central et le Grand Est, et dans l'après-midi, quand même, le Cotentin et la Pointe Bretonne vont récupérer quelques éclaircies. Les températures seront comprises entre 10 et 21 degrés dans la journée. 11 à Besançon, 13 à Auxerre et Limoges, 14 à Paris, 15 à Cherbourg et 20 degrés à Marseille et Ajaccio.
Valérie Quintin pour la météo, 18h15.
La brigade RTL Soir.
C'est l'une des grandes infos du jour. EDF qui a pris la décision d'arrêter les coupures pour impayés désormais sur l'ensemble de l'année, non plus uniquement pendant la fameuse trêve hivernale comprise, on le rappelle, entre le 1er novembre et le 31 mars. Brigade RTL confiée ce soir à Morad Djabari. Bonsoir Morad.
Bonsoir.
Qu'est-ce que cela change concrètement finalement pour les usagers dans la difficulté ?
Eh bien, un soulagement pour plus de 5 millions de Français en situation de précarité. À partir du 1er avril 2022, l'électricité ne sera plus coupée, mais réduite à 1000 watts. Et cela toute l'année, même en dehors de la trêve hivernale. Jusqu'ici, environ 300 000 foyers étaient confrontés aux coupures de courant jusqu'à la sortie de l'hiver.
Alors, pardonnez-moi, mais 1000 watts, ça correspond à quoi pour être vraiment concret, hein ?
Le strict minimum, s'éclairer, se nourrir, recharger son téléphone, faire ses devoirs, avoir le frigo branché, mais tout cela d'une façon limitée. Il ne faut pas oublier que cela reste une sanction, comme le précise Manuel Domergue de la Fondation Abbé Pierre.
L'électricité, il faudra toujours la payer. Les dettes, il faudra toujours les payer. Ça, il n'y a rien qui change. Tout ce qui est eau chaude, chauffe-eau, gazinière, chauffage, souvent, ça consomme plus de 1000 watts. Donc, c'est vraiment pas du luxe, hein, la réduction de puissance. Ça reste une sanction qui est sévère, mais c'est toujours mieux qu'une coupure totale. Donc, c'est quand même une avancée, mais on n'est pas du tout dans l'irresponsabilité, l'électricité gratuite, comme on l'entend.
En tout cas, c'est une décision, Morad, qui arrive après des mois d'augmentation des prix de l'énergie. Hein.
Oui, cette année, 25% des Français, contre 18% en 2020, ont déclaré avoir rencontré des difficultés pour payer certaines factures de gaz ou d'électricité. Alors, cette mesure, c'est une bonne nouvelle pour Françoise, mais elle habite un logement mal isolé et elle a connu les coupures de courant. Avec sa petite retraite, elle peine à payer ses factures d'électricité.
Oui, c'est une belle avancée, mais moi je dis qu'il faudrait quand même voir le problème des gens qui ne peuvent pas payer en pourcentage au-dessus de leurs moyens, de leurs revenus, quoi. Ah, mais je les paye, je me sers, je me prive. Je paye 85 euros pour n'avoir juste la lumière et pas de frigidaire, rien du tout, hein. Ni four, ni rien. Pour 9 mètres carrés, le minimum. Mais moi, je me chauffe même pas, je peux même pas me permettre. Mais 85 euros, ça fait très très cher. C'est bien qu'ils aient un peu de lumière, c'est bien qu'ils aient un frigidaire, mais je trouve que c'est léger, mais c'est vraiment minime. C'est une miette, quoi.
L'arrêt des coupures d'électricité, c'est évidemment une avancée, même historique, comme le confie la Fondation Abbé Pierre. Mais ça reste une mesure d'urgence, un simple répit pour les foyers en difficulté.
Un simple répit. Merci à vous, Morad Djabari. C'était la brigade RTL. Dans un instant, direction Glasgow. On va s'intéresser aux dernières heures, dernières minutes de discussion, de tractation à l'occasion de la conférence pour le climat, la 26e du nom. Aurore Mathieu, responsable des politiques internationales Horizon Action Climat, sera notre invitée dans deux minutes maintenant.
RTL Soir. Christophe Paco, l'invité d'RTL Soir.
La COP26 et ses toutes dernières heures de tractation pour tenter de protéger au mieux notre planète pour les années, les siècles à venir. On le disait dans le journal avec Marion Calais tout à l'heure, la France cet après-midi a donc rejoint la coalition de pays qui s'engage à mettre un terme d'ici à la fin 2022 au financement à l'étranger de projets d'énergie fossile sans technique de capture du carbone. En clair, des centrales à charbon qui n'émettraient plus de carbone, c'est-à-dire zéro émission. Invité d'RTL Soir, Aurore Mathieu qui est en duplex de Glasgow avec nous. Elle est responsable des politiques internationales à ONG Réseau Action Climat. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Vous vivez depuis le début, hein, les discussions sur place, elles sont importantes, bien sûr, comme chaque année, c'est la 26e rencontre. On imagine que cet accord, cet après-midi, le fait que la France rentre dans cette coalition, ça fait tout de même partie des points positifs pour cette COP de Glasgow.
Oui, tout à fait. La France est un des derniers pays à avoir rejoint cette coalition. Et en effet, c'est un signal très positif. Maintenant, il va falloir voir, hein, en effet, quelles sont les conditions de mise en œuvre concrètes dans le cadre national de cette coalition. Mais c'est un signal fort.
Ça veut dire qu'on s'engage évidemment à aller plus loin, à oublier le charbon et plus tard le gaz et le pétrole, tout simplement, pour être très clair ce soir.
Ça veut dire cela. Le seul détail sur lequel on est en train de regarder, ce serait en effet la condition que vous avez mentionnée de projet où les activités de captation et de stockage du carbone ne sont pas présents. Et donc si il y a une possibilité de continuer d'investir dans des projets d'énergie fossile où il y a une possibilité de capter et de stocker le carbone, ce serait quand même un peu problématique avec la crainte que du coup les entreprises dirigent leurs fonds plutôt vers les technologies de captation de carbone plutôt que de les diriger vers les énergies renouvelables. Donc c'est le seul petit bémol. Voilà.
L'avenir, de toute façon, ça passe par le renouvelable, on est d'accord, hein, par tout ce qui est photovoltaïque, tout on a déjà parlé. Aujourd'hui, on fait des choses, on réalise des choses, il y a des choses de concret aujourd'hui, vous le sentez après ces journées de discussion ?
Il y a quelques avancées, notamment en marge des discussions. Comme vous l'avez bien noté, aujourd'hui, l'Agence internationale de l'énergie l'a rappelé, hein, pour respecter l'accord de Paris et limiter le réchauffement à 1,5 degré, il faut absolument cesser immédiatement tout nouveau investissement dans les projets pétroliers, gaziers, de charbon. On a vu quelques avancées, notamment de la part de coalitions d'États qui se sont mis d'accord pour stopper ces énergies fossiles. Par contre, il faut encore que cela soit reflété dans le texte final de la décision de la COP26. Donc les tractations continuent pour justement que toutes les annonces qu'on a vues au cours des deux semaines puissent être réellement reflétées dans les décisions finales de la COP26 pour concerner tous les pays et pas seulement quelques pays volontaires.
Aurore Mathieu, ça veut dire qu'à l'instant où on se parle, et peut-être toute la nuit, vous allez peut-être faire une nuit blanche, il faut signer, il faut que chacun y mette son petit paraphe, c'est ça ?
Exactement, là il reste encore deux sujets très importants dans les négociations et qui déterminera aussi un peu le succès de cette COP. Le premier sujet, c'est combien, et si, enfin déjà, est-ce que les États riches et développés, qui sont majoritairement responsables
pauvres,
des émissions
évidemment.
De gaz à effet exactement, vont aider les plus pauvres à travers le financement de ce qu'on appelle les pertes et dommages, qui sont les conséquences irréversibles du changement climatique. C'est encore en tractation. Et bien sûr, nous, société civile, nous sommes en solidarité avec les pays pauvres et demandons justement à ce que ces pertes et dommages soient financés par les pays riches.
Alors justement, il y a déjà des pays qui ont montré l'exemple, à l'image de l'Écosse qui a organisé, hein, évidemment ce sommet, cette COP26 qui a déjà mis 1 million sur la table. C'est peut-être une goutte d'eau pour certains, mais bon, c'est un début parce qu'on réclame, on le rappelle, 100 milliards par an, c'est ça?
Alors 100 millions, c'est le financement qui va à l'atténuation des réductions et à l'adaptation au changement climatique.
Et le million, c'est pour aller dans le sens des pollueurs, c'est-à-dire que c'est à eux de payer, d'indemniser les pays pauvres.
Exactement. Le million, c'est vraiment ce serait vraiment pour réparer en fait les conséquences qui sont déjà irréversibles. Donc un exemple très concret, quand il y a un ouragan dans une petite île, dans un petit pays, qui doit payer les réparations de l'ouragan qui a détruit des villages, qui a fait déplacer des gens. Et on estime qu'en effet, c'est aux pays qui polluent, c'est aux pays qui sont historiquement responsables des émissions de gaz à effet de serre, de payer.
De payer. Il faut payer toujours, je vous le disais, c'est vrai que chacun va essayer d'y mettre un peu d'argent, mais on voit que c'est difficile d'arriver aux 100 milliards d'un côté, et on voit qu'on commence à mettre de l'argent pour évidemment compenser ces pertes et ces dommages, comme vous l'avez dit. Il y a une image qui était très forte, hein, notamment c'est le ministre des îles, hein, Tuvalu, qui était les pieds dans l'eau. On le sait. Est-ce qu'on va y arriver, finalement, parce que c'est peut-être une application de la COP21 pendant la COP26, qu'on va arriver à un moment à réduire à moins de 2, c'est-à-dire ces effets qu'on pensait même arriver à 1,5?
Ce qui est sûr, c'est que cette COP26, elle est très importante parce que c'est la première depuis 2 ans et aussi parce que dans cette décennie que tout va se jouer pour justement réduire les émissions à 1,5. Là, actuellement, on peut déjà dire que les plans de réduction des États ne sont pas suffisamment ambitieux pour respecter le 1,5 degré. Mais voilà, les tractations se jouent pour pouvoir permettre aux pays pauvres et les plus vulnérables face au changement climatique d'avoir une réponse, en fait, et de pouvoir les aider aussi à s'adapter et à faire face aux impacts du changement climatique.
Et pour conclure, on peut se dire qu'on peut se rassurer aussi dans l'état des relations entre des pays comme les États-Unis et la Chine. Hein. C'est peut-être aussi pour l'image, on s'est rapproché, Trump était absent. On voit même que l'Inde fait un effort, mais pour 2070, c'est loin. Merci Aurore Mathieu, la liaison se dégrade un petit peu avec Glasgow. Merci d'avoir participé évidemment à RTL Soir, d'avoir été notre invité. Bonne fin de tractation, bonne nuit blanche, hein, visiblement, là-bas à Glasgow. Je vous rappelle que vous êtes responsable des politiques internationales à l'ONG Réseau Action Climat. Et à vos côtés, on va retrouver sans plus tarder Marie Billon, envoyée spéciale à Glasgow. Rebonsoir Marie, merci d'être restée avec nous. On est dans les dessous de l'actualité ce soir, on a bien compris qu'il fallait encore signer, qu'il y avait des petits points comme ça. Mais quelle est l'ambiance? On est quoi? Logiquement, hein, de façon non officielle ou officielle en tout cas, à 45 minutes de la fin de la COP26. Hein.
Oui, alors c'est vrai qu'on sent qu'on est à la fin d'un sommet qui a quand même duré 2 semaines. Dans les longs couloirs de ce centre des congrès agrandi pour l'occasion encore, on voit les traits tirés des délégués, des observateurs, des politiques. Mais dès que quelqu'un aperçoit une tête connue, comme par exemple cet après-midi un membre de la délégation américaine qui a entrevu le représentant climat de l'opposition travailliste britannique, eh bien là les yeux se rallument, les discussions s'animent à nouveau. Mais il faut quand même dire qu'il y a déjà beaucoup moins de monde. Certains représentants des pavillons nationaux sont déjà repartis. Beaucoup d'observateurs aussi ont remballé leurs affaires, laissant le champ libre aux négociateurs dans cette dernière ligne droite.
On repart beaucoup en avion, hein, voilà. Non, bon, c'est bon, je ne vais pas faire mauvaise langue non plus. Marie Billon, comment on négocie finalement? Parce qu'on sent qu'il faut bien qu'on se parle entre pays pauvres, pays riches, même entre pays très riches ou pays pollueurs. On vient d'en parler avec les États-Unis et la Chine. Est-ce qu'il y a des sortes de lobbies qui s'installent, qui s'instaurent?
Alors en tout cas, il y a des négociations qui sont vraiment très concrètes. Adieu les Zooms à distance. Hein. Par exemple, hein, l'organisateur britannique a créé des binômes de ministres de pays aux intérêts divergents pour qu'ils se penchent sur les détails qui les séparent. Et au fur et à mesure des propositions, il y a des propositions de texte de l'accord final qui sont proposées. Alors la présidence britannique observe ces changements et part parfois littéralement avec ses papiers sous le bras pour aller négocier la formulation. Et on est vraiment sur du détail parce qu'on se demande, est-ce qu'il faut garder un mot fort ici ou est-ce qu'il vaut mieux une tournure plus vague? Et il y a vraiment pour de vrai une liste d'expressions des plus déterminées aux plus diluées, une liste noir sur blanc. Ce sont sur ces mots très possiblement que les cheveux sont en train de s'arracher en ce moment même.
C'est capillotracté au niveau de la négociation, j'ai bien compris Marie Billon. Pour conclure en 30 secondes, je vous demande votre avis parce qu'avec Virginie Garin, vous étiez sur place évidemment à Glasgow pour RTL. Il y a une image qui vous reste, je sais pas, un endroit, peut-être cette COP26 qui restera jamais écrit dans l'histoire.
Écoutez, il y a deux choses qui vraiment ont interpellé. D'abord, les discours très forts de plusieurs pays du Sud qui ont décrit les profondes difficultés qu'ils rencontrent déjà à cause du réchauffement climatique. Le témoignage d'une déléguée kényane a beaucoup touché. C'est l'accès à l'eau potable qui est le plus difficile dans son pays. Et puis, il y a eu cette vidéo d'un ministre du Tuvalu qui a fait un discours les pieds dans l'eau pour illustrer la montée des eaux qui menace d'envahir son île. Et mais c'est surtout le pavillon de cette île du Pacifique qui sera l'image la plus marquante de ce centre des congrès. Il y avait une installation artistique, 5 ours polaires en gilet de sauvetage serrés sur un bout de banquise à la dérive. Et à côté, un pingouin qui, de désespoir, s'était pendu. Une manière pour cette petite île de montrer que le changement climatique n'a pas de frontières. La fonte des glaciers au pôle menace son existence alors qu'elle se trouve à des milliers de kilomètres de là.
Les dessous de l'actu pendant cette COP26 avec Marie Billon. Bonne fin de soirée, bonne nuit Marie, à Glasgow pour cette fin de COP26. Dans un instant, le rappel des principaux titres de l'actualité avec Marion Calais. Et puis idée de sortie avec Julien Molcou dans 2 minutes maintenant.
RTL Soir.
Les principaux titres de l'actualité, les 18h32.
RTL Soir.
Avec Christophe Paco.
Et avec Marion Calais.
Elle avait donc imaginé son enlèvement, les aveux de l'adolescente de 17 ans aujourd'hui. Après sa brève disparition en début de semaine, elle s'est dit désolée d'avoir causé une mobilisation aussi importante, jusqu'à 200 militaires mobilisés. L'Europe face au rebond épidémique, des restrictions attendues ce soir aux Pays-Bas. L'Autriche, elle, planche sur un confinement des non-vaccinés, vote attendu dimanche au Parlement. Puis nouvelle tension entre Paris et Londres, au sujet cette fois des migrants. Un millier de personnes arrivées hier selon les autorités britanniques. Inacceptable, dit le Royaume-Uni.
Marion Calais, vous restez avec nous, bien sûr Marion, comme tous les vendredis soirs, on va refaire nos régions.
Avec plaisir.
Que de la curiosité jusqu'à 19h ce soir.
Laissez-vous tenter, dernière.
Curieuse, espiègle, Julia Molcou et les bonnes idées de sortie en ce long week-end. Julia ?
Eh ben oui, bonsoir à tous. Pardon, j'avais pas de son.
Vous avez pas de son, vous avez la musique, vous avez la télé, vous avez la radio. C'est RTL que vous écoutez.
C'est ça, très bien, pardon, excusez-moi, je suis là. Bonsoir à tous. Alors effectivement, ce soir, je vous emmène au spectacle. Il s'appelle Thomas Poitevin. Il est auteur et acteur et pendant le premier confinement, son compte Instagram, Les Perruques de Thomas, a connu un succès fulgurant et jamais démenti depuis. En fait, en enfilant une perruque, Thomas devient un autre ou une autre. Alors ça va de la directrice de théâtre subventionnée, débordée et mal aimable avec son assistante, au grand-père un peu bourru qui ne retient pas le prénom de son gendre, à une agent immobilier bourgeoise à souhait, bref, une galerie d'anti-héros drôles et pathétiques qu'il a décidé d'incarner sur scène.
En mars 2020, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus intense. Je m'attendais à du Charlize Theron dans Mad Max minimum, tu vois. Mad Max, bah c'est un film où t'as une fin du monde, et pas n'importe laquelle. En fait, il fait genre 98 degrés, t'as les survivants qui se battent en se lançant des camions au visage. Le moindre figurant ouvre sa canette de bière à même les dents. Et là, t'as Charlize Theron qui arrive, qui te les calme. Voilà, ça c'est dans les films, et nous dans la réalité, on s'est tapé une apocalypse où Sophie Davant a le temps de sortir un petit magazine à son nom, quoi.
Voilà. Et on n'a rien contre Sophie Davant, mais en effet, on était loin de Mad Max. Ce qui est fort avec Thomas Poitevin, c'est que ça n'est pas uniquement drôle. C'est aussi très touchant, parfois même complètement déstabilisant. Il change de perruque à vue, sur scène, devant les spectateurs, et il passe d'un personnage de jeune schizophrène affectif à une jeune femme en mal d'amour qui décide, ça va vous plaire ça Christophe, d'aller voir la mer. Elle veut aller voir la mer, elle se pose face à l'océan, elle veut vraiment être en contact avec les éléments, mais il y a une mouette qui lui...
Ah non,
si, si, si. Et ben pourtant, elle va quand même lui donner un prénom à cette mouette, parce que comme ça, elle se sent moins seule. Et puis il y a Hélène, Hélène c'est mon personnage préféré, c'est une Michelle Obama sous amphétamine, et elle, elle est prête à tout pour redonner le goût de vivre à son mari. Franchement, elle est irrésistible. Vraiment, allez-y, jetez un œil à son compte Instagram Les Perruques de Thomas, puis prenez des places pour son spectacle, d'autant qu'il est en tournée. En ce moment, il est au Théâtre du Rond-Point à Paris, jusqu'au 28 novembre. Et puis ensuite, il sera à Antony, à Montbéliard, à Bar-le-Duc, à Amiens, à Chalon-sur-Saône, bref, plein de dates partout en France jusqu'à avril prochain. Thomas joue ses perruques et c'est super.
Thomas Poitevin, c'est
exactement.
Bien ça. On garde son nom, on retrouve votre chronique évidemment sur le site rtl.fr.
Mais bien sûr.
Et demain matin...
Non.
Mais non, vous êtes en week-end.
Oui.
Mais non, vous n'êtes pas avec le grand Stéphane Carpentier.
Je l'abandonne 6 demain matin.
Vous l'abandonnez?
Non, ouais, demain je ne suis pas.
Mais que, comment va-t-il faire sans vous?
Vous me direz, vous me raconterez.
Alors là, je vais écouter 6h-9h demain, la grande matinale évidemment, les samedis et les dimanches. Merci, bon week-end à vous alors Julien.
Merci Christophe, à bientôt.
18h36, vous allez vous régaler. Merci. On va vous parler d'une recette assez incroyable dans quelques instants. On va aller en Alsace, on ira au bout du monde tout à l'heure avec les expatriés du vendredi. Dans On refait nos régions également. Un grand combat cette semaine, un tour incroyable au milieu des vignes. Et pas n'importe quelle vigne, pas n'importe quel vignoble. C'est la région sud-ouest. Vous êtes un petit peu. On verra ça ensemble. Et comme d'habitude, l'info pour briller en soirée, moi j'adore. Et le winner de la semaine, ou le loser, qui sait, avec Marion Calais, on a rendez-vous avec tous nos correspondants en région dans moins de 2 minutes maintenant dans RTL Soir.
Christophe Paco, Marion Calais, on refait nos régions dans RTL Soir.